RCF.
Vous écoutez RCF, il est 7h30, le journal, c'est avec vous Laurette Duranel.
Bonjour Delphine, bonjour à tous et à toutes. À la une aujourd'hui, la flamme olympique prend le large. La mythique torche va embarquer ce samedi à bord d'un voilier nantais pour un voyage inédit entre la Grèce et la France. On vous en dira plus en début de journal. On parlera également d'un autre voyage, celui d'enfants ukrainiens venus en vacances dans les Hauts-de-France. Un moment de répit loin des bombes. Et puis on terminera ce journal avec la visite du pape à Venise, une visite avec une tonalité particulière, vous l'entendrez. C'est une flamme surveillée de très près, une star qui a ses relayeurs et ses gardes du corps. La flamme olympique doit prendre le bateau ce samedi pour rejoindre la cité phocéenne et ce sera en première classe. Elle sera installée dans la plus belle salle du Bellem, un magnifique trois-mâts qui accueille peut-être le passager le plus important de son histoire, Marine Corbel.
Il a transporté du cacao, des mules, des touristes, mais en 127 ans de vie, le Bellem n'avait encore jamais accueilli de flamme olympique. Le voilier a été construit en 1896, l'année de la création des Jeux Olympiques modernes, peut-être un signe que cette histoire devait s'écrire. Chez l'équipage dirigé par le capitaine Aymeric Gibet, il y a l'enthousiasme bien sûr, mais c'est aussi une lourde responsabilité. La flamme doit arriver le 8 mai à 19h40 précise dans le vieux port de Marseille. Malgré ses moteurs, le voilier reste soumis aux aléas de la météo pour le gros du trajet et contraintes supplémentaires sur ses 2500 km et 12 jours de traversée, le feu ne doit idéalement pas s'éteindre. Il sera installé dans la plus grande et la plus belle des salles du bateau. Trois gardiens de la flamme formés par Paris 2024 veilleront sur la lanterne jour et nuit, tels des gardiens de phare à la solitude en moins. Par ailleurs, l'ensemble de l'équipage est formé au risque d'incendie. Le Bellem étant tout en bois, la prudence s'impose.
Le voilier classé monument historique déposera le porteur de la flamme olympique sur un ponton de 400 mètres carrés face à la Canebière. Et c'est le nageur et champion olympique Florent Manaudou qui recevra la mythique torche le premier. La flamme débutera alors son parcours en France. Nouveau répit pour le gouvernement. Contre toute attente et malgré la dégradation des finances publiques du pays, les agences de notation ont maintenu les notes de la France concernant la dette. Moody's a maintenu le niveau AA2 assorti d'une perspective stable. Quant à Fitch, qui avait abaissé la note de la France d'un cran l'an dernier, elle l'a laissé inchangé. Concrètement, cela signifie que le risque de défaut concernant la dette française est très faible. Le leader français des promoteurs Nexity va supprimer 502 postes. Il s'agit du plan social le plus important annoncé cette année par un promoteur, mais ce n'est pas la première entreprise du BTP à supprimer des postes. Bouygues a annoncé 225 suppressions de postes. Vinci Immobilier a aussi annoncé un plan social sans en donner l'ampleur pour le moment. En cause, la profonde crise du secteur du BTP, Nina Droff.
Comme beaucoup d'entreprises du secteur, Nexity est pris en étau entre offre et demande. D'un côté, les promoteurs doivent faire face à la hausse des coûts de construction causée par les prix des matières premières qui continuent de flamber, mais aussi par des normes environnementales plus strictes. Et de l'autre côté, il est de plus en plus difficile pour les ménages d'accéder à des crédits. Conséquence, les réservations de logements neufs s'effondrent alors qu'il s'agit d'une activité majeure pour le secteur. Au premier trimestre de 2024, les réservations de Nexity ont chuté de 29% par rapport à 2023. Et la situation n'est pas prête de s'arranger. Côté construction, les prix des matières premières ne baissent pas. Et côté crédit, les quelques baisses des taux d'intérêt ne suffisent pas à faire remonter les réservations de neufs. La Fédération française du BTP table sur 90 000 suppressions d'emplois au total cette année. Pour sortir de la crise de la promotion immobilière, Nexity s'est engagé à se diversifier, notamment dans l'énergie solaire et l'épargne.
Merci Nina Droff. Autre secteur en difficulté, le monde viticole. Alors que la production de vin a baissé au niveau mondial selon les chiffres de l'Organisation internationale du vin, mais la France n'en ressort pas trop entachée car elle redevient le premier pays producteur mondial. Une bonne nouvelle selon Joël Brouel, vigneron dans le Gers et président des vignerons coopérateurs de France, mais qui ne se résout pas le problème de la surproduction car si la France continue de produire et d'exporter beaucoup de vin, la consommation au niveau mondial, elle baisse.
Le phénomène de la surproduction ou de notre incapacité à commercialiser tous les vins produits demeure, oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a un delta qui est de 5-6 millions d'hectos entre ce qu'on produit et ce qu'on est capable de commercialiser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, On est en pleine réflexion pour engager une phase d'arrachage de vignes assez importante pour essayer de réduire ce delta qu'il y a entre ce qu'on produit et ce qu'on est capable de commercialiser.
À Lille, les parents d'élèves du lycée musulman Averroès ont porté plainte. Ils accusent le préfet du Nord de discrimination suite à sa décision de mettre fin au contrat liant ce lycée à l'État. Le Hamas étudie une contre-proposition d'Israël en vue d'une trêve des combats à Gaza et de la libération des otages. Il y a 2 semaines, le mouvement islamiste avait remis sa réponse au pays médiateur. Il insistait alors sur ses exigences autour d'un cessez-le-feu permanent et sur l'intensification de l'entrée de l'aide humanitaire. Hier, l'Union européenne a d'ailleurs annoncé débloquer une nouvelle aide humanitaire de 60 millions d'euros pour les Gazaouis. Et ce matin, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, annonce que si aucun Palestinien ne se qualifie au JO 2024, le CIO les invitera. 8 ou 9 athlètes seraient concernés. Passer une semaine de répit loin des bombes et de la guerre, c'est le programme de 40 enfants ukrainiens à Lille cette semaine. Tous viennent de la ville de Kharkiv, à quelques kilomètres seulement de la frontière russe. Ils sont accueillis par 3 clubs sportifs lillois. Martin Paguet est allé à la rencontre des jeunes judokas pour RCF Hauts-de-France.
Sur le tatami, impossible de différencier Ukrainiens et Français. Les enfants enchaînent les exercices de judo avec le même enthousiasme, comme Christina, 10 ans, et un kimono bleu électrique sur les épaules.
J'aime beaucoup ce séjour. Je peux me reposer et il n'y a pas d'explosion. Chez moi, il y en a parfois des dizaines par jour. C'est difficile.
Les 30 apprentis judokas sont encadrés par 4 coachs, 2 Ukrainiens et 2 Français comme Gaëtan.
C'est l'entraîneuse qui fait cours, l'après-midi ça sera moi. On essaie d'alterner, comme ça ils voient comment nous on s'entraîne et comment eux s'entraînent.
Amener 40 enfants ukrainiens à Lille était un voyage complexe, organisé par la mairie avec l'aide de sa ville jumelle Kharkiv. Marie-Pierre Bresson est l'adjointe en charge de la coopération internationale à Lille.
La question ne s'est pas posée de la faisabilité, c'est on le fait. Puis voilà, ils sont arrivés à Lille et on est évidemment très heureux de les accueillir dans les 3 clubs qui se sont mobilisés pour accueillir ces jeunes et leurs coachs.
Cet été, la région Hauts-de-France accueillera 150 nouveaux enfants ukrainiens à Wattignies, Liévin et Olin pour un séjour de répit loin des bombes.
Merci Martin. À Taïwan, un nouveau séisme a été enregistré à l'aube. Lundi et mardi, l'île avait déjà été frappée par plusieurs secousses. Cette fois, le séisme de magnitude 6,1 n'a pas nécessité le déclenchement de l'alerte au tsunami. On l'a appris hier soir, un prêtre retraité a été mis en examen à Tours jeudi pour viol sur 2 femmes adultes qu'il aurait côtoyées à l'occasion de son ministère, information révélée par l'AFP. Je vous le disais en début de journal, le pape François va visiter Venise dimanche. C'est la première fois qu'il visite la cité des Doges depuis le début de son pontificat. Dans la lagune sérénissime qui attire des millions de touristes, lui, il va pour visiter principalement une prison pour femmes, rencontrer des artistes d'art contemporain, et bien sûr pour célébrer la messe sur la place Saint-Marc. Le pape François, habitué des périphéries, va donner une tonalité particulière à ce voyage, explique Cyprien Viette, journaliste vaticaniste de l'agence Immedia à Rome.
Venise est une ville qui a accueilli plusieurs visites papales, notamment Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI, mais François n'est jamais venu à Venise. Donc en fait, on est dans un diocèse un peu paradoxal, parce qu'à la fois c'est l'incarnation d'une histoire extraordinaire. Venise a été un État en soi, une puissance économique qui a exercé une influence énorme à travers toute la Méditerranée. Mais aujourd'hui, c'est un diocèse un petit peu en crise, puisque vous savez qu'à Venise, il y a un peu l'incarnation de ce phénomène de Disneylandisation des villes touristiques. Vous avez en fait très peu d'habitants à Venise même. Maintenant, il n'y a que quelques milliers d'habitants et beaucoup d'appartements sont mis en location pour les touristes. Donc le pape François, je pense, a accepté l'organisation de ce voyage en voulant rappeler que l'Église devait s'insérer dans un paysage humain, devait continuer à donner témoignage de l'héritage historique et du rapport aux réalités actuelles. Et ça pose un vrai défi pastoral à l'Église locale.
Un voyage sur le thème de la détention. Le pape visitera donc la prison pour femmes de la Giudecca et le pavillon du Saint-Siège de la Biennale de Venise consacré à la captivité avant la photo souvenir sur les canaux et sur la place Saint-Marc. C'est la fin de ce journal. On se retrouve à 8h pour un nouveau point sur l'information.